Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Merci de votre présence pour assister à cette rencontre qu'on attendait avec impatience Thierry Belfroy et moi. Enfin parler du futur avec les trois personnalités les plus autorisées pour le faire. Donc je vous présente Thierry Belfroy, le co-commissaire de l'exposition.
Je ne suis pas une des trois personnes autorisées pour le faire.
Donc nous allons essayer d'animer modestement cette soirée en laissant le plus possible la parole à nos invités prestigieux. D'abord Jean-Pierre Dionnet, j'ose même pas les présenter tellement leur célébrité les précède, Roland Lehoucq et puis Denis Bajram qui vont nous accompagner ce soir pour essayer de faire un sort au futur et à travers, en prolongeant l'exposition Scientifiction et ce que Jacobs nous dit du futur ou ce qu'il suggère lorsqu'il se penche sur la question, essayer de voir si le futur a encore un avenir, si cette idée futuriste est finalement dépassée, si on l'a épuisée ou si elle garde de la ressource et qu'elle est capable peut-être de conserver cet idéal, cet imaginaire, ce cap pour les scientifiques, mais aussi pour les auteurs de bandes dessinées, pour les auteurs de fiction. En tout cas, par ce titre un petit peu provoquant, on voudrait se demander ce soir si, avec vous, si ce futur demeure désirable, s'il a basculé, si le rêve a basculé vers le cauchemar, s'il faut s'inventer un nouveau lieu pour projeter nos rêves et les espoirs de la recherche. En tout cas, merci beaucoup déjà à tous les trois d'être là ce soir et de vous prêter à ce petit jeu. Alors, quelques mots sur, d'abord en introduction de ce propos, sur notre présence ce soir et pourquoi parler du futur. Alors, le futur n'est pas le sujet principal des aventures de Blake et Mortimer, c'est plutôt l'extrême présent ou l'exactement présent hein, chez Jacobs, qu'il observe et dont il se fait le témoin privilégié. Mais pourtant, à quelques reprises, dans au moins trois de ses albums, il projette Blake et Mortimer dans quelque chose ressemblant au futur, d'abord évidemment dans Le piège diabolique où il projette au 51e siècle le professeur Mortimer à travers le chronoscaf de Miloche pour essayer de se débarrasser de lui, mais également un futur alternatif, on pourrait dire, dans l'énigme de l'Atlantide, puisque la ville de Poséidos pourrait être une espèce de futur, bien qu'elle se situe sous terre et qu'elle semble plutôt tournée vers le passé. On est à la fois dans le passé et dans le futur. Alors, est-ce qu'on peut parler de rétro-futurisme aussi par rapport à cette représentation-là d'une cité technologiquement avancée? On peut aussi parler d'une autre façon, d'un autre futur jacobsien, celui de SOS Météor, où parmi tous ces albums, peut-être celui de SOS Météor nous plonge le plus dans notre présent à nous, qui était à l'époque le futur de Jacobs, avec ses troublants dérèglements climatiques que Jacobs associe à de la politique, auquel il donne des raisons militaires liées à la guerre froide et aux conflits qui opposent les États-Unis et l'Union soviétique. En tout cas, déjà trois versions possibles pour ce futur. Ah, pardon, c'est comme ça qu'on fait. Donc là, vous avez deux images de l'exposition qui resitue à travers le prisme des quatre éléments cette œuvre de Jacobs. Mais d'abord, nos trois invités entretiennent chacun, ils en ont témoigné en nous envoyant des documents, quelques contacts privilégiés avec Jacobs. Et je laisse la parole immédiatement à Jean-Pierre Dionnet, qui a dans son ouvrage « Mémoire, un pont sur les étoiles », tout juste publié, rapporté un échange, un courrier avec Jacobs.
Oui, moi, mon livre, c'était la marque jaune, parce que j'ai eu le livre et puis après j'ai eu le disque. Alors, c'était encore mieux, donc je passais de l'un à l'autre. Il y a des variations entre les deux, d'ailleurs. Donc, j'ai été drôlement fier le jour où j'ai reçu une lettre d'Edgar Pierre Jacobs, et qui, en gros, j'ai pas tout dit, parce qu'il manque une ou deux lignes, j'ai pas retrouvé la lettre exacte, mais il disait, tenez-moi au courant de la suite, et continuez à m'envoyer les numéros. Et j'ai demandé à François Rivière, qui avait été notre intercesseur à l'époque, s'il avait bien reçu les suivants. Oui, il m'a dit, mais il continuait à me lire avec intérêt, parce que c'était effectivement l'opposé de ce qu'il défendait. Et donc, ça l'intéressait, ce qui prouve l'ouverture d'esprit du bonhomme, qui est tout à fait évident. Et puis moi, comme je crois au hiking de n'importe quoi, En venant, je lisais un livre de Ken Liu, son dernier recueil de nouvelles, et il disait, je fais de la science-fiction, mais bien entendu, quand je parle du futur, je me trompe sûrement, parce que personne ne connaît le futur. Vous voyez que là-dessus, je suis très laconique. Je suis très laconique aussi, parce que si je prends des revues comme l'Illustration ou autre, autour de 1890-1910, ça a été la fin du monde déjà, hein. Très nettement. Hein. D'abord le chemin de fer, les mines de Newcastle, le ciel de Londres où bientôt on ne pourrait plus respirer, des futurs catastrophiques. D'abord, ça a toujours mieux vendu que des futurs positifs. Ah, oui, parce qu'on est plus intéressé par la fin du monde et proche. Et moi, personnellement, j'attends le futur. Alors, je resterai là le plus longtemps possible, mais je n'attends pas pour être au premier rang d'orchestre, pour voir une fin du monde à la CCB 2000. J'attends tout. J'attends l'exode sur les autres planètes. J'attends de multiples possibles. Et je suis presque sûr que là, maintenant, aujourd'hui, dans tous les futurs possibles, ceux qui me disent... un peu à la Paco Rabanne, bon, c'est dans 5 ans et 3 jours, c'est la fin du monde. Ben, je n'y crois pas parce que millénarisme d'une part, et puis le fait que c'est vrai que c'est fascinant d'être au premier rang de la fin du monde, au premier rang d'orchestre, mais le monde, ce n'est pas un concert de hard rock, on va être au premier rang pour voir le plus d'éclairs possible. J'ai aucune idée du futur, d'ailleurs, je n'en ai jamais eu aucune.
Alors, un pont sur les étoiles parfait pour écouter Denis Bajram. Est-ce que tu as dessiné la fin du monde et inventé l'univers d'Universal War parce que la destruction, ça vend mieux, ça passionne plus? Et est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on voit à l'image là et le lien que tu as avec Jacobs?
Ça marcherait mieux si j'allume. Oui, moi, j'ai tout gamin, je suis tombé sur le secret d'Espadon. Mais je ne savais pas ce que c'était en fait, et je l'ai lu chez un ami, et je suis reparti sans savoir ce que c'était. Et donc j'ai cherché ce bouquin-là pendant 10 ans après, je pense. Et j'ai parlé d'un livre dans lequel il y avait l'Europe qui était détruite par un grand cataclysme, etc. Et les gens me disaient, c'est n'importe quoi. Parce qu'en fait, c'est vrai que dans Le Secret de l'Espadon, finalement, c'est un strip. C'est 4 cases qui racontent la fin, et moi, ça m'avait paru être un album complet, quoi. Et ces 4 cases qui sont présentées là, elles ont tellement marqué que quand moi-même j'ai dessiné la destruction de la Terre, j'ai remis la tour Eiffel cassée exactement au même endroit. C'est vraiment un moyen de signer le fait que ce traumatisme visuel et de destruction, il me vient de Jacobs. Je me sens mais vraiment fils de Jacobs à 100% sur cette histoire-là. Or, comme c'est quand même la signature principale de mon travail, le côté destruction de monde ou d'univers, je suis vraiment un héritier de Jacobs sur ce terrain-là. En plus, j'ai mes petits côtés maniaques qui vont bien avec, donc je pense que c'est, quand je dis maniaque, c'est le côté finir le dessin. C'est-à-dire que s'il manque un bouton, ça ne va pas. Il faut terminer le dessin tout le temps, il faut bien fermer les traits, il faut bien équilibrer ses cases, il faut que tout soit composé. Tout, voilà. Donc mon rapport à Jacobs, il vient vraiment de cette petite enfance complète. Ce qui est amusant, c'est que pour moi, raconter la fin du monde, c'est pas parler du futur. C'est parler d'aujourd'hui. Quand je commence en 98 Universal War One, je ne fais que parler de ce que je vois devant moi. C'est-à-dire que on n'est pas. J'ai l'impression qu'on est en train de torpiller notre planète à court terme, et en fait, je ne fais qu'une métaphore grandiloquente en détruisant la Terre de la destruction de la Terre qui est en cours. Il n'y a pas l'idée de se projeter dans un futur où la Terre serait détruite, en fait. Il y a l'idée de parler du fait qu'on est en train on est trop nombreux sur ce caillou et qu'on est en train de le ravager, quoi. Donc
c'est précisément ce que fait Jacobs quand il écrit sa première aventure de Blake et Mortimer. Lui aussi n'a pas l'impression de se projeter dans le futur. Il voit la Troisième Guerre mondiale à sa porte. Donc on est en 1946, au moment où Tintin démarre, et où il démarre cette aventure, et pour lui, la Troisième Guerre mondiale, elle est déjà là.
Voilà. Oui, et quelque part même, il parle de la seconde, en fait. C'est-à-dire que c'est le monde dans lequel il a vécu depuis 4 ans, qu'il est en train de redécrire de manière outrancière. On se demande, je ne suis même pas sûr qu'il pense qu'il va y avoir une troisième. Sa troisième guerre mondiale, c'est une super deuxième guerre mondiale. C'est peut-être même un moyen d'évoquer le traumatisme. Je ne sais pas comment ils l'ont vécu avec Hergé depuis leur banlieue bruxelloise, mais je pense que le traumatisme, on le voit le traumatisme chez Hergé, même avant la guerre, dans l'étoile mystérieuse, la fin du monde est proche, et on va avoir des phénomènes mystérieux partout, il y a des araignées géantes.
Leur expérience biographique est différente quand même. Hein. Donc lui est mobilisé, Jacobs, et quand il revient du front, il découvre que son frère est mort. Donc c'est pas la même chose qu'Hergé. Il y a quand même un traumatisme qui est beaucoup plus fort chez Jacobs que chez Hergé.
Ah, j'ignorais que son père, c'est au retour de... Oui. Parce qu'il a été mobilisé dans la drôle de guerre, lui, il n'a pas combattu.
Il a combattu la brève campagne, en fait, des 18 jours, comme on l'appelle. Oui.
Alors, le troisième document, le troisième lien, Roland, vous avez choisi cette image de... Time Machine, une illustration de l'ouvrage d'H.G. Wells, une des...
Couverture de Lou Cameron, qui Exactement. Est également l'auteur de la bande dessinée... qui est dedans et qui a fait effectivement La Machine à explorer le temps. Et il a fait deux ou trois, et puis c'est un excellent dessinateur. Et puis après, il est devenu écrivain de polar parce qu'il gagnait mieux sa vie. Mais le fascicule, ce fascicule-là est assez étonnant parce qu'il y a là aussi un souci de réalisme extrême. Puis alors là, quand on compare les deux... Il y a ma photo. Ces classiques illustrés, c'était quelque chose que ma génération a connu parce qu'ils ont été mis en vente deux fois. Deux fois, ça n'a pas marché. Autant Macbeth en 32 pages en Amérique, ça faisait un malheur. Et c'était en fait pour contourner la censure, puisqu'on ne voulait plus de bande dessinée d'horreur. Donc ils disaient, hey, c'est Macbeth, donc on a le droit de le faire. Ça sortira chez Monoprix. Et chez Monoprix, il y aura 12 fascicules, ça ne marchera pas. Et 10 ans plus tard, en kiosque, il y aura à nouveau 12 fascicules. C'est toujours les mêmes. C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde du même. Et ce qui est marrant, c'est de voir que ces mythes fondateurs viennent tous du 19e siècle, à peu près de la même période. C'est très étonnant de voir que Jekyll... Time Machine, Dorian Gray, et puis ce passage à l'acte, cet accomplissement qui est l'invention du serial killer et des médias de Jacques l'Éventreur, ça se passe en l'espace de 3-4 ans. Et que tout d'un coup, plein de mythes modernes naissent involontairement de leurs auteurs.
Dans le merveilleux scientifique.
Dans le merveilleux scientifique.
Qui précède la science-fiction.
Et ça continue à être vrai aujourd'hui, parce qu'on est dans un monde de Dorian Gray. Bon, la machine à explorer le temps... Roland, c'est plus que moi dessus, sur alors, son possible.
Roland.
Alors effectivement, moi d'abord, historiquement, je suis tombé dans Jacobs quand j'étais petit, comme beaucoup de gens, en lisant ses bandes dessinées à la bibliothèque, et puis après, plus tard, quand j'ai commencé à avoir un peu de sous, en les achetant. D'abord les empruntant, et après en les achetant finalement. Et comme Jean-Pierre, ben, moi c'est vrai que la marque jaune m'a marqué. Et puis après tous les autres, évidemment. Et puis plus tard, puisque moi, ma marque de fabrique, c'est d'utiliser la science-fiction, enfin les œuvres de fiction, la BD et le cinéma et la littérature de science-fiction comme prétexte pour parler de science, évidemment, comme il y a beaucoup d'éléments scientifiques et techniques dans Jacobs, ça, voilà une œuvre intéressante à regarder, à observer et à discuter pour non pas dire « Ah, Jacobs s'est trompé là » ou « Là, c'est très bien ». Bon, c'est bien ou très bien pour bien d'autres raisons que la qualité scientifique de l'œuvre de Jacobs. Mais pour s'en servir comme prétexte pour parler, et là, par exemple, avec le chronoscaphe, évidemment, qui est une machine incroyable, la machine à remonter le temps, quand même, dans Wells, qui est quand même une œuvre marquante, littéraire marquante, et puis les illustrations qu'on a été faites, les films qu'on a été faites, bref, une œuvre extraordinaire, et puis le fantasme du voyage dans le temps. Voilà un très beau sujet pour un physicien, un astrophysicien qui veut parler un peu à la fois de l'état de l'art dans son domaine, ou dans la physique en général, dans la physique spéculative, même pour ainsi dire, la physique la plus fondamentale et la plus en construction, encore à bâtir, et en même temps, en prenant prétexte d'œuvres populaires, d'œuvres agréables à regarder, avec des images. Et quand on voit les deux, moi j'avais beaucoup aimé de voir l'analogie entre le chronoscaphe, et j'en découvre évidemment tous les jours des analogies ou des points, j'ai pas la... j'ai pas l'ancienneté et la culture de Jean-Pierre sur ça, j'en découvre à chaque fois. Et du coup, j'avais trouvé très amusant, quand j'ai cette conférence que je donne sur le voyage dans le temps, je l'ouvre tout à fait par ces deux dessins-là, en les mettant en parallèle. Et il y a une volonté, effectivement, que ça soit à la fois technique. Alors on le voit parce que c'est une machine, alors évidemment il y a des choses, alors dans celle de gauche, dans l'illustration, on voit clairement qu'il y a des boulons, quoi. Il y a des câbles, il y a des choses, dans le chronoscaphe aussi, mais on voit dans un cas, la machine, la time machine, le gars il est en costard, quoi. Il voyage dans le temps comme vous prenez l'autobus, quoi. Alors que dans l'autre cas, il faut quand même un costard, enfin oui, il y a une combinaison, ce qui laisse sous-entendre que si vous n'avez pas la combinaison, vous n'allez pas y jouer dans le temps, il ne faut pas faire de trous dedans, quoi. Voilà. Quand vous êtes dans l'espace, il faut choyer sa combinaison. Évidemment, sinon il y a des problèmes pour sortir ou même ou rentrer. Donc là, les deux images sont assez marrantes de voir que dans un cas, ça pourrait être un peu n'importe qui fait ce voyage dans le temps, et dans l'autre cas, non, il faut quand même être équipé et sérieusement équipé. Et après, ça pose bien sûr la question du voyage dans le temps. Est-ce qu'on peut voyager vers le futur? C'est quoi le futur? Est-ce qu'il y a un futur? Même le présent, on pourrait discuter sur la notion de présent. Ce n'est pas une notion universelle. Voilà. La relativité restreinte nous apprend que la notion de présent, et donc du coup de futur et de passé, n'est pas universelle. C'est-à-dire que le présent, c'est l'ensemble des événements qui sont simultanés à un événement donné. Par exemple, je ne sais pas, moi, la naissance du Christ, par exemple, et on dit, ça, c'est le début des calendriers, on prend comme origine, et après, c'est parti, on accumule des durées successives. La durée successive, c'est la rotation de la Terre autour du Soleil, ça fait un an, ça fait deux ans, ça fait trois ans, puis ça fait beaucoup d'années. Et il se trouve que la simultanéité n'est pas un phénomène universel en relativité restreinte, c'est-à-dire que deux événements qui sont simultanés pour un observateur ne sont pas simultanés pour un observateur qui est en mouvement par rapport au précédent. Et la notion de durée est relative aussi à l'observateur, c'est-à-dire qu'un observateur qui observe deux événements successifs, pas forcément liés causalement, mais deux événements successifs qui sont séparés par une certaine durée, et bien un autre observateur qui observe les deux mêmes événements va trouver une durée différente, ce qui n'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de penser du monde temporel habituel, des durées et de la simultanéité. Et donc du coup, on peut comme ça élaborer sur la possibilité de voyager non pas dans le futur, mais dans le futur d'un observateur. Je peux voyager dans votre futur, ou vous dans le mien. Essentiellement, il suffit que je monte dans un vaisseau extrêmement rapide qui approche à epsilon près la vitesse de la lumière. Je reste quelques années en temps du vaisseau, avec mon chronomètre de vaisseau qu'on appelle temps propre. Et pour vous, il pourra s'écouler des durées extrêmement grandes qui peuvent se compter en siècles si je suis très 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 proche de la vitesse de la lumière et si j'attends assez longtemps dans mon propre vaisseau. Et du coup, je reviens pour ce qui a apparu pour moi deux ans et qui pour vous était 200 ans, vous êtes tous morts et je vois votre futur, enfin que je pouvais anticiper par ailleurs, sur le long terme on est tous morts. Donc voilà, ça c'est une possibilité, ça me permet de la discuter, mais vous voyez, ça aussi ça remet en cause, ça me permet de discuter, de remettre en cause nos représentations du temps. Alors justement, on avait fait avec Denis, qui avec Universal War évidemment, il y a des questions temporelles absolument intéressantes, très intéressantes, et nous avions fait une table ronde aux Utopiales, enfin une table ronde, c'était une table à deux, aux Utopiales, une table à deux, on n'était que tous les deux, et on avait discuté de ces notions temporelles. Et donc après, il y a le problème du passé, et là, c'est beaucoup plus compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas une conférence sur le temps, mais donc voilà, moi j'ai eu donc un rapport très plaisant avec Jacobs, et puis aussi par la qualité de ses dessins, enfin, il y a quelque chose, c'est beau, quoi, enfin, les aventures égyptiennes, enfin tout est beau, tout est magnifique, il y a des grandes planches, on se plonge dedans, il y a beaucoup de textes, moi j'ai toujours aimé les BD avec beaucoup de textes, j'adore Achille Talon par exemple, c'est très verbeux Achille Talon, pour bien d'autres raisons que c'est verbeux, mais il se trouve que c'est très verbeux, alors qu'il y a des BD où c'est plus, les phylactères sont remplis de petites phrases et puis ça suffit bien, donc oui, j'avais bien aimé moi Jacobs, beaucoup aimé Jacobs, adolescent et encore maintenant bien sûr.
Mais Jacobs c'est un cas, mais il y a eu une génération de dessinateurs. Je pense à des dessinateurs de Terry et les Pirates, Milton Caniff, je pense à Jean-Claude Forest, et qui faisait partie d'une génération où il faisait d'abord le texte, la bulle autour, et s'il n'y avait pas beaucoup de place en bas pour le personnage, et ben tant pis pour lui. Ce qui fait qu'on avait des fois des bandes dessinées extrêmement longues à lire. Et dans le cas de Forrest, il lui semblait impensable de ne pas faire d'abord la bulle avec le contenu, puis l'image dans ce qui restait. Maintenant, à un moment, on est passé dans l'excès contraire, c'est-à-dire qu'à un moment, certains dessinateurs ont fait des planches en pensant que l'original aurait une valeur marchande, où ils ne mettaient pas de bulle. Et en gros, ils disaient après, ben maintenant, on va la mettre dans la place qui reste. Il y a eu quelques catastrophes comme ça, parce que c'était très très beau pour le collectionneur qui allait mettre ça sur mur, Mais le résultat, c'est quand on essayait de lire, on avait le début de la bulle en haut, le reste au milieu, et puis en bas, il finissait. C'était proprement illisible. Et là, moi, j'ai fait mes devoirs, comme tout le monde ici. J'ai relu les Jacobs. J'avais oublié le temps que ça prenait. Oh là 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 là.
On en a pour son argent, au moins.
On en a pour son argent, ouais.
Alors, une des théories est que ça devait prendre du temps pour que le lecteur s'imprègne suffisamment chaque semaine, puisque une seule planche paraissait dans Tintin, et que c'est grâce précisément au côté verbeux et au côté très littéraire de Blake et Mortimer que la notoriété de la série a été si grande si vite. Parce qu'on avait l'impression d'en lire deux fois plus que de lire les planches des autres auteurs qui étaient beaucoup plus vite lues. Voilà, bien joué, hein, Jacobs.
Il y a un truc qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, on essaye de ne pas mettre trop de texte, mais en fait, on s'aperçoit qu'on peut tricher. Moi, au début, quand je commence un livre, il n'y a pas beaucoup de texte. Alors, il se passe des choses, des aventures, il y a du suspense, les gens finissent par vouloir comprendre ce qui se passe. Alors, au moment où ils veulent comprendre, on peut leur fourguer tout le texte qu'on veut. C'est-à-dire, à partir du moment où on a amorcé l'envie, moi, j'ai des pages d'explication où c'est du Jacobs. Pendant 4 pages, il y a des pavés de texte, etc. Personne ne m'a jamais fait la remarque que c'était trop. Comme quoi, le texte, c'est, on y a toujours droit, mais il faut simplement avoir pris les gens par la main avant pour les emmener jusqu'à ce moment presque littéraire. Voilà.
Alors,
les pages où j'explique, il y a quand même des trucs.
Ah, pardon. Je voulais juste rebondir, puisque... Vous abordez un sujet dont on a extrait une citation des mémoires de Jean-Pierre Dionnet. Les illustrations jouent un rôle important dans mes lectures, surtout celles de Giovanni Benvenuti. Et là, on le voit que l'image dans la bande dessinée, mais aussi la couverture des romans, des fascicules, l'image joue un rôle essentiel pour figurer ce futur, le rendre désirable, faire adhérer au propos et peut aussi permettre effectivement de déployer derrière un texte très très dense, des explications scientifiques, des morceaux de bravoure que chaque savant fou dans les aventures de Blake et Mortimer, c'est un peu son moment de gloire, c'est le solo de batterie du savant fou où il pense qu'il a, ça y est, il a capturé Mortimer, il est à sa merci et donc il lui raconte par le menu tout ce qu'il va faire.
Et Giovanni Benvenuti, il faisait des couvertures pour Ditis, l'ancêtre de Gélu, donc c'est aussi vendu chez Monoprix. Donc, quand on a acheté le livre, qu'on voyait ce type sur un sol qui semblait un mélange de marbre et de métal, avec un personnage comme ça levé, on achetait Objectif Pollux. Et c'est après qu'on découvrait que c'était une des variations du AEC tube de l'histoire du vaisseau qui est parti pour l'éternité et où les habitants ont oublié depuis longtemps qu'ils sont à bord d'un vaisseau. Et qu'ils sont en route pour ailleurs, et que ça fait 3 ou 4 000 ans qu'ils sont en route, et c'est les premiers qui réalisent qu'ils en ont encore pour 2 ou 3 000 ans à tirer, pas eux, mais leurs enfants. Et c'est vrai que beaucoup, beaucoup de lecteurs de science-fiction, ce sera pareil avec les pochettes de disques à un moment, on a acheté des fois sur l'image de couverture. Plus elle était frappante, plus elle était intrigante. Alors, il y avait là-dedans des gens qui lisaient pas les romans. C'était une des caractéristiques de Branton, qui généralement avait pas le temps, il avait 4 couvertures à faire. Alors, la couverture était pas très indicative du contenu, des fois. Non, il y a une grosse fusée qui s'envolait. Okay. Certains y mettaient un talent certain. Certains lisaient le livre. Alors, Jacques Sadoul m'avait dit, c'est très rare. Hein. Généralement, ils disent, oh là là, ça va m'encombrer la tête. Fais-moi un résumé d'une page. Parce que les types, ils devaient abattre parfois 3-4 couvertures par mois. Donc, s'il avait pu lire le livre en plus, bon, c'est pareil dans la fiche de film également. C'est-à-dire que c'est une époque où l'image et l'image des couvertures... Alors là, c'est là que Jacob, c'est pour ça que la marque jaune a marqué toute une génération. Nous, on n'était pas nés quand lui a vu M le maudit, mais ce M mystérieux, ce M qui en même temps est clandestin, parce que c'est comme un truc tracé à la graisse. C'est presque mai 68, c'est tracé à la craie comme ça, à toute vitesse. Ça a des Roland de Blitz, avec ces choses qu'on glisse quelque part. On parlait tout à l'heure de la guerre qu'il avait vue de Belgique, mais je relisais l'autre jour les mémoires de Graham Greene. Et à un moment, il parle du Blitz pendant 40 pages. Et c'est épouvantable parce que lui fait partie de la défense civile à ce moment-là. Et il essaye d'aider un type de sortir sous les décombres. Donc il arrive à tirer sur les pieds, mais il y a un type à l'autre bout qui tire sur la tête et il voit que les deux sont séparés. Et apparemment, il s'en est pas remis. C'est-à-dire que les gens qui ont vu toutes ces choses-là ont eu une vision. Et je crois que ce sera les grands catastrophistes qui vont arriver juste après, ceux qui ont eu les images de cette guerre. C'est d'ailleurs beaucoup plus les Anglais que les Américains, parce qu'eux, les bombes, ils les prenaient tous les jours sur la figure. Les Américains sont venus après, ils sont arrivés, mais pour les Anglais, c'était la sirène tous les jours. Et pour Jacobs, anglophile, qui ne parlait pas anglais, cette imagerie, bah, il l'avait dans les journaux, il la voyait, il voyait tout d'un coup tout un quartier détruit avec des gens, des Anglais, et ce sera sa vision de l'Angleterre, qui essayait de garder une certaine tenue, une certaine classe, et de vivre là-dedans.
Denis, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu abordes le dessin ? La couverture, mais aussi le réalisme. On sait que c'est quelque chose auquel Jacobs est très vigilant, accréditer vraiment sa fiction. Toi, tu as aussi un dessin qui est très réaliste, qui essaie d'être le plus crédible possible. Est-ce que derrière ce sérieux apparent, il y a une recherche de ta part préalable ? Comment est-ce que tu te documentes ? Est-ce que cette apparence de réalisme n'est que le camouflage d'invention et d'un monde surnaturel, futuriste?
Dans Universal War One, j'ai tenu à ce que ça soit réaliste, mais c'est du faux réalisme. C'est-à-dire que je m'inscris presque dans le merveilleux scientifique. Ça a l'air très réaliste, mais en fait, c'est la notion que je veux faire passer. À aucun moment, je présente un mécanisme d'ingénieur qui fonctionne. Je dirais que ça ne m'intéresse pas. Quand je veux faire l'ingénieur, je fais du programme informatique, c'est beaucoup plus carré. On est en train de raconter à des gens des choses dans des cases qui vont, quand on lit la bande dessinée, les trois quarts du temps, une case, on garde l'œil une seconde dessus. En fait, on est en train de lire le texte, on saute au texte d'après. Donc en fait, pendant la lecture, les gens regardent très peu les images. Donc si on n'est pas extrêmement clair sur les fonctions des objets qu'on présente, les gens ne les vont pas les comprendre. Donc, or, un vrai mécanisme, ce n'est pas clair. Il n'y a rien de moins lisible qu'un mécanisme, enfin, à partir en tout cas des années 50, de la miniaturisation. On ne peut plus comprendre les mécanismes qu'on voit. Donc, moi, j'essaie de mettre en avant les fonctions, de réfléchir à la fonction que je veux afficher, et je ne me présente que ça. Donc, en fait, ce n'est pas du tout réaliste, au sens où ça ne pourrait pas du tout fonctionner. Je me suis trouvé, c'est amusant, ça c'est une illustration que j'ai fait à côté. Alors d'un côté, il y a une planche Universal War One, donc je dois dessiner le fait qu'on coupe une planète en deux. Vous voyez, c'est le genre de choses, le dessin le plus simple, c'est mettre un gars avec une scie qui fait en, mais ça marche pas vraiment. Donc j'ai essayé de montrer ça. Et alors de l'autre côté, au contraire, c'est un dessin que j'ai fait pour l'Observatoire de Genève, qui travaille sur les exoplanètes. Et qui m'a contacté en disant, ah ben nous on fait des images de synthèse très jolies, mais en fait on a l'impression que ça ennuie les gens. Parce que ça fait 50 fois qu'ils voient des exoplanètes ou des étoiles bleues, rouges, vertes avec des trucs devant. Et ils m'ont dit, ils m'ont contacté en tant qu'auteur de science-fiction pour que je mette du merveilleux scientifique dans la présentation scientifique. Et on a réfléchi à cette image-là. En l'occurrence, c'était une atmosphère avec du métal fondu, vaporisé. Donc je ne sais plus quel métal c'était. En l'occurrence, on va dire une atmosphère en fer gazeux. Et pour essayer de montrer ça, j'ai proposé qu'on ait des vaisseaux qui récoltent le fer gazeux en se baladant avec des espèces de grands conteneurs derrière pour ramasser du fer à la fin. Et vous voyez, c'est impossible, ça n'a pas de sens. Si vous imaginez le niveau de température qu'il y a quand le fer est gazeux, des vaisseaux qui se baladent là-dedans. Alors je leur ai mis des pseudos halo autour pour montrer qu'ils sont comme des boucliers, quoi. Voilà. Mais de fait, ils ont quand même un truc en métal qui se balade dans du métal fondu, ça ne marche pas, quoi. Mais c'est pas grave, c'est la fonction qui comptait. Et cette image-là, elle raconte une illustration. C'est pas une peinture. Une illustration, c'est une illustration d'un sens. Moi, je me considère comme illustrateur, même quand je fais de la bande dessinée, parce qu'en fait, je ne fais que traduire en image du sens. C'est pas des images pour elles-mêmes, voilà. Il y a pas, même si parfois.
Oui,
il y a
et puis quand je regarde ces images-là, moi, je vois ce qui est représenté. En même temps, je vois autre chose parce que je vois ces cercles, je vois le fait que ça pourrait être une goutte d'eau. à l'image 5 de la page de gauche, je vois des tas de choses différentes et j'ai l'impression que c'est des images rêvées en même temps que j'ai dans ma tête. Je crois que il y a un goût des éléments, par exemple chez Jacobs, l'eau, le terre, l'air, le feu. Ça serait marrant, par exemple, un jour de reprendre Bachelard et de voir ce que ça donnerait par rapport à toutes les visions élémentaires de Bachelard. Le fait que, donc, en fait, ces images-là, elles sont en nous déjà. Et donc, l'auteur nous prend la main et on voit l'image qu'il nous donne, mais on a déjà une idée, l'eau et les rêves, la terre et les rêveries de la volonté et tout, qui vient de la mythologie, et que Bachelard, je me souviens d'avoir parlé avec Jacques Kirby, qui ne connaissait pas Bachelard, ça lui avait ouvert des horizons, mais il n'a pas pu trouver de traduction, parce que lui s'était dit, on peut partir de ces formes totalement élémentaires, et comme on les a en nous, on fait une partie du chemin, parce que quelque part, ces images, on a l'impression de les reconnaître. Et donc, on lit l'histoire, mais en même temps, là, tout d'un coup, cette succession d'images, plein de personnes, suivant leur univers mental personnel, vont voir autre chose qui n'appartient qu'à eux, par rapport à leur peur, à leur terreur, à leur claustrophobie, par exemple. Ou,
Mais justement, j'aimerais demander à Roland comment un scientifique voit ce genre d'image et comment est-ce qu'il est possible encore de croire aux histoires quand on connaît ce qui ne marche pas.
D'abord, un point, pour rebondir sur ce que dit Jean-Pierre, Jack Kirby, c'est aussi les quatre fantastiques ou c'est moi qui me trompe ?
Oui.
Oui. Parce que les quatre fantastiques, quand même, on a beau dire, c'est quand même la terre, l'air, l'eau et le feu.
Oui, totalement.
Et, évidemment. Hein, le gros Brutus, la chose, c'est la terre, évidemment. Le feu, c'est la torche. L'eau, c'est Monsieur Fantastique, là, qui se déforme, il tend le bras et il récupère le truc à 2 mètres. Et puis Madame, je ne sais pas comment elle s'appelle, l'invisible, la femme invisible, j'ai oublié son nom, Jane Storm, quelque chose comme ça. Enfin, c'est la sœur. Elle, c'est l'air, évidemment, elle devient invisible. Et évidemment, on rajoute le surfeur d'argent, qui est le cinquième élément. Il fait des trucs incroyables. Donc, il y a une vision aristotélicienne aussi dans les quatre fantastiques. Alors ensuite, c'est vrai, moi, des images comme ça, j'adore les voir. D'abord, premièrement, j'adore les voir parce qu'elles sont belles. Enfin, ça pète le feu, quoi. C'est beaucoup plus beau, je comprends que c'est beaucoup plus beau parce qu'il y a des vaisseaux, parce qu'il y a un truc bizarre, mais c'est beaucoup plus beau que simplement une représentation à peu près réaliste ou en tout cas scientifiquement éduquée de ce que c'est une planète en orbite proche d'une géante bleue. Bon, en orbite très proche au point que sa surface soit si chaude que peut-être le métal ou des éléments métalliques se vaporisent. Donc ça, c'est clairement en mettant des objets techniques, des vaisseaux, des humains, quoi, finalement, ou des humains ou autres, hein, on ne sait pas. Après tout, on s'identifie en mettant des humains, mais ça se trouve, c'est des arachnoïdes de Arcturus V et qui font des plans. Bon. Et donc, après, effectivement, moi, quand j'ai mon regard de scientifique, moi, ce qui m'amuse, c'est de dire, quand je vois la petite sphère, je comprends l'intention, évidemment. Et on met un champ de force, hein, on met un truc qui protège et puis on est tranquille. Et en même temps, et toujours en étant bienveillant, je risque pas d'être désagréable avec mon copain Denis, sûrement pas, et avec aucune autre personne qui fait ce genre d'illustration. Et en même temps, on peut pas s'empêcher de se dire, mais moi, si je devais le faire en vrai, je ferais comment ? C'est-à-dire, d'accord, le vaisseau, bon, c'est pas clair les vaisseaux, tout ça, les arachnoïdes d'Arcturus V, c'est pas clair, mais le machin rond autour, on ferait comment ? Et c'est là où ça commence à devenir amusant, parce que on peut rendre les choses aussi merveilleuses en montrant que la science peut se lâcher et dire, ah oui, alors si c'est un truc qui a l'air de protéger, il protège contre quoi ? On peut imaginer les vapeurs de métal chaud, par exemple. On n'a pas envie de toucher des vapeurs de métal chaud, donc un gaz chaud. Donc il y a une espèce de sphère qui vous protège. En même temps, vous voulez voir ce qui se passe. Donc cette sphère, elle va être transparente d'une façon ou d'une autre, quelle que soit la façon dont elle agit. Oui, mais en fait, comme en dessous, il y a plein de métal chaud, et que ce métal, il est chaud, il rayonne, et s'il est chaud, c'est que ça reçoit beaucoup de rayonnement de son étoile. Vous voyez ? Et mettre une sphère transparente pour vous protéger de la terreur absolue du coin qui est le rayonnement, ça ne marche pas. Donc du coup, en fait, il aurait fallu, mais encore une fois, ce n'est pas un conseil que je donne à Denis, il est largement assez fort et il fait des trucs où moi je suis tombe raide quand je les vois, j'adore. On pourrait dire, ah mais si on avait mis une sphère qui avait l'air réfléchissante, en miroir. Alors là, d'abord, quand on est à l'intérieur, on aurait pu dire peut-être, et les miroirs s'entendent, peut-être les gars de l'intérieur, les arachnoïdes, ils voient ce qui se passe de l'autre côté, mais nous, on ne les voit pas, et ça tombe bien, parce que nous, c'est par exemple la supergéante bleue qui est là, et sa lumière ne voit pas l'intérieur, ça veut dire qu'elle ne rentre pas, ça veut dire que le vaisseau ne chauffe pas.
Voilà. Donc c'est toujours ces petits trucs-là que moi j'adore trouver, et encore une fois, jamais pour être désagréable, mais pour me dire, je suis jaloux en fait du gars qui fait des beaux dessins, et lui dit, moi j'avais fait la techno, j'aurais mieux fait, mais en fait on s'en fout, parce qu'on a compris l'intention, comme tu disais, on a compris l'intention, on a compris la fonction, et ça change rien sur le...
Et à Utopia, j'ai vu dans les images, on voyait un trou noir très très bien photographié, comme ça, et je me suis dit... Tout ce travail pour voir qu'en fin de compte, ça ressemble à un saladier en verre de Murano retourné, alors, posé sur la table.
Exactement, ça c'est l'inverse, c'est le comment dire, le néophyte qui voit les images scientifiques et qui dit, attendez là, c'était combien de personnes, c'est combien de millions pour ce truc, et c'est juste ce truc un peu dégueulasse là.
Un saladier.
Donc il faut, et comme toujours, et comme dans l'art en général, c'est toujours bien d'avoir une explication de texte que Denis fait merveilleusement à chaque fois, quand il fait des workshops aux Utopias en particulier, quand il explique son travail, d'autres illustrateurs le font aussi très bien, c'est toujours très intéressant d'avoir l'envers du décor, comment j'ai fait l'image, comment j'ai travaillé, et pour les scientifiques qui produisent ces images, quand on voit cette image du trou noir au centre de 1687, quand on voit le résultat, on se dit, t'as raison, il se fout de notre gueule, quoi. C'est-à-dire, attendez, on fait vachement mieux, nous, maintenant, lui, il fait vachement mieux, les images de trou noir. Et donc, il faut expliquer comment on a obtenu cette image, qu'est-ce qu'on doit y voir, et on doit éduquer son regard sur une image de science, comme on doit éduquer son regard sur une image de BD, ou sur une image en général. Et simplement, évidemment, cette éducation au regard, elle n'utilise pas les mêmes outils mentaux qu'on est en bande dessinée, ou qu'on soit en science, ou qu'on soit en ça, ou qu'on soit dans toutes ces représentations. Et donc, c'est là où c'est intéressant, c'est que finalement, de constater que la science-fiction et les sciences produisent des images. Ça peut être des images réelles, au sens, une image, une photographie du ciel, ou une photographie d'un composant électronique, je ne sais quoi, une microphotographie d'une araignée, ou de je ne sais quoi. Mais ça produit aussi des images mentales. Voilà, c'est ça aussi, ça produit des images, ça reproduit des représentations. Quand on dit le système géocentrique, la Terre est au centre, on imagine le Soleil, les planètes qui tournent autour, mais héliocentrique, alors c'est le Soleil au centre, ça tourne autour. On a une image mentale de quelque chose, et puis certains les dessinent, et puis on les a photographiés, enfin pas vu la vision godlike, mais enfin, on a pu photographier toutes ces planètes et se faire une construction mentale de tout ça. Et comme tu disais, effectivement, quand on voit une image ensuite, on la lit souvent avec son intériorité, avec son expérience, avec ce que l'on sait. Et c'est pour ça qu'on peut se trouver dans des situations, dans les images de science, enfin dans des choses qui relèveraient, disons, des phénomènes de la nature ou des phénomènes réels, au sens, ils se produisent devant moi et qu'on est bien en peine de les interpréter, ou on les interprète faussement parce qu'on n'a pas forcément le bon cadre de lecture. Un exemple classique, bien sûr, sont les ovnis, où il y a énormément de choses que l'on voit, que des gens voient, sincères, c'est pas des affabulateurs, c'est pas des charlots, ils ont vu quelque chose, simplement, dans pratiquement 95% du temps, on sait reconstruire ce qu'ils ont vu, comprendre ce qu'ils ont vu, parce qu'on a assez d'informations pour la reconstruire, parce qu'ils ont témoigné avec assez de précision sur ce qu'ils ont vu, et donc on dira, ah ben non, c'était le vaisseau sonde machin, ou c'était le tir de la fusée truc, ou c'était un reflet sur les nuages et le noctilucent, ou c'était Vénus, ou c'était je sais pas quoi, et ils ne voient pas, ou dans un point brillant qui se déplace dans le ciel, ils ne voient pas un satellite, parce que pour eux, un satellite, c'est un tas de ferraille avec des antennes. Et ils n'ont jamais vu un satellite comme un point lumineux qui se déplace dans le ciel. Donc, on a toujours une lecture, et les scientifiques aussi, et tout le monde, qui est biaisé, d'une certaine façon, parce que l'on sait déjà. Et c'est toute cette éducation au regard, essayer d'être indépendant de cette intériorité, mais on ne peut pas l'être tout à fait, qui permet de mieux comprendre le monde. Et du coup, de mieux comprendre aussi le travail à l'artiste, l'imaginaire qu'il a mis dedans, d'où il vient, comment il a construit ses planches ou sa bande dessinée. Et donc...
Et puis, je crois que ça dépend vraiment de l'époque où c'est conçu, parce qu'en gros... De Jules Verne aux illustrations de Jules Verne jusqu'au la bande dessinée de science-fiction des années 50-60, on est chez Eiffel, c'est-à-dire que tout est boulonné, l'intérieur des fusées et tout. Alors c'est voilà sous des spécialistes de ça, c'est-à-dire que tout est boulonné, mais exactement comme on est en train de construire des immeubles à Chicago ou à New York. C'est-à-dire qu'il y a des boulons partout. Et puis après, 50, le boulon va disparaître.
On voyait ça chez Jacob, c'était très frappant. Là, et aussi dans l'illustration, la machine à voyager dans le temps, c'est un atome. Mais un atome des années 50, l'espèce de représentation un peu banale de l'atome des années 50. Or, c'est l'époque où on a fait dans les récits, on nous parle d'atomique pour parler de pistolet, etc. Donc, à l'époque, c'est le mot magique, c'est atome, comme maintenant, c'est quantique. Aujourd'hui, quand on n'arrive pas, qu'on veut faire un truc magique dans un roman de SF, on dit que c'est quantique, quoi. Voilà. Ou nano. Ça dépend si c'est... Ouais, nano-quantique, c'est le top.
Mais il y a une simplicité chez Jacobs qu'il rend plus intemporel que beaucoup de bandes dessinées des années 50, parce que faisait l'effort pour avoir les petits boulons partout, les machins comme ça, alors que la simplicité de Jacobs fait qu'aujourd'hui, ça reste crédible.
L'espadon, il est incroyable. Hein. L'espadon, en termes de design, c'est incroyable. Ça n'a pas pris une ride. Hein.
Voilà, donc ça reste des objets possibles. C'est vrai qu'il faisait des maquettes, c'est vrai qu'il faisait très attention, mais tout d'un coup, on se dit, ça n'a pas, entre guillemets, démodé. Il y a des images de science-fiction maintenant qu'on regarde avec plaisir en se disant vraiment ce n'est pas la peine de nous faire la tour Eiffel qui vole quoi. Chez Jacobs non, jamais. Chez Jacobs il y a une espèce de pureté, une volonté de pureté de ligne, une volonté, une recherche. Et alors il y a des pressions sidérantes. Bon, moi je trouve que le fait que la machinerie du futur tout d'un coup c'est chez Sato, il dit bah ça va venir du Japon. Bah, je suis désolé, c'est pas si évident que ça allait venir du Japon à ce moment-là. Et tout d'un coup, on se trouve avec des objets dont la conception visuelle est très différente de celle des objets occidentaux. Ça s'est passé. Hein, ça s'est appelé Sony Walkman ou autre chose.
Dans le Japon, après, il y a eu une BD que j'ai adorée quand j'étais plus jeune, qui était Yoko Tsuno. Et là, avec une héroïne d'abord, dans la science-fiction japonaise, et avec plein d'iconos, enfin de thématiques japonisantes, enfin plus asiatiques qu'occidentales. Et donc là, c'est pareil, il y avait aussi une volonté de faire des beaux engins, des engins crédibles. C'était pas avec des boulons, là, pour le coup, quand même, hein, mais des engins crédibles. Et il y avait des arguments, pareil, dans Yoko Tsuno, on trouve un certain nombre de choses de science à discuter, qui sont souvent imparfaites, hein, évidemment, la science-fiction, la BD de science-fiction en particulier, bien sûr, cherche pas à faire une science exacte, c'est pas le point du tout, c'est pas leur objectif, évidemment, mais il y a plein de petites discussions à faire sur ce que l'on voit, sur la façon dont les choses se font. Il y a des questions sur l'énergie, des questions sur l'évolution des étoiles, quand il y a les deux soleils vous avez dites-moi Vinéa, oui, c'est ça, merci. Voilà, il y a des connaisseurs, c'est ça, merci. Bon, lui, il pourrait être là aussi. Hein. Les deux soleils du Vinéa, où on peut discuter de l'astrophysique, de ça. Ça peut servir toujours pareil, de prétexte. Et comme sont des albums, ensuite, bon, pour les ados modernes, ils ne les connaissent pas toujours, ces albums-là. Et après, ils peuvent aller voir. Donc, ça a aussi une vertu culturelle, d'une certaine façon. C'est-à-dire, après, quand ils tombent dedans, évidemment, quand on tombe dans Jacobs, quand on tombe dans le Cotuno, eh bien, on y reste un peu quand même. Parce que finalement, il y a quelque chose qui fait qu'on n'a pas envie de partir. Quoi.
Alors, Jean-Pierre, on a extrait une citation de ses mémoires où, à la date d'aujourd'hui, le 22 novembre, vous avez produit un texte dans Métal Hurlant anticipant il veut pas venir. Non, il veut plus repartir dans l'autre sens, que je vous sorte même cette citation. On l'a vu tout à l'heure.
C'est le fameux texte fantôme qui s'efface chaque fois qu'on veut le montrer. C'est très connu.
On l'a vu tout à l'heure.
Il détecte qu'on veut le montrer, il s'efface.
Ah ben, il veut plus partir.
Ulrich est en train d'hacker la conférence.
Le 22 novembre 1973, avec Demain peut-être, je consacre 2 pages à la délinquance du futur, dessinée par Druyer. Est-ce que la délinquance du futur, c'est la délinquance d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous envisagez à l'époque?
En gros, elle est bien décevante, la délinquance du futur, parce qu'elle n'a pas beaucoup changé. La seule remarque que je me suis faite, c'est que la délinquance que j'ai vue naître, que Druyer a vue naître, parce qu'on était tous banlieusards, c'est la délinquance rock'n'roll, blouson de cuir et tout. Et que là-dedans, je remarque qu'il y a un objet qui a changé totalement et qui a traversé toutes les époques, un peu comme Jacobs. Quand je suis à Douvres en 63, dès que je vois des types arriver avec le crâne rasé et des Doc Martens, je sais qu'il faut changer de trottoir. C'est les skinheads et ils vont me faire la peau. Et maintenant, je vois mes gamines de 21 ans, il leur faut absolument des Doc Martens. Donc je me dis, c'est marrant que l'objet reste le même, mais son contenu n'a pas changé. Et le délinquant a désespérément peu changé d'aspect. Il veut inquiéter, voilà. Alors évidemment, là, quand c'est Druyer, par exemple, à l'époque, c'est pas évident. Il lui fait des tatouages très beaux. À l'époque, personne n'est tatoué, soyons clairs. Donc, là, il a une petite avance. qui va être attrapé, parce que maintenant, j'allais dire, ne pas être tatoué, bientôt on va être très très peu nombreux. Mais c'est vrai que la délinquance du futur, on n'imaginait pas que... Bah, de toute façon, le type, il va toujours prendre une barre de fer par terre, il va toujours prendre un couvercle de poubelle pour se protéger, ou l'équivalent. Dans la plupart des pays, bon, il n'a pas d'armes à feu et autres, donc il pense qu'il a sous la main. Enfin, on le voit tous les jours. Vous pouvez le voir tous les samedis, s'il y a une petite manif et autres. Le délinquant est une valeur fixe qui ne bouge pas beaucoup. Il doit être quoi, le délinquant? Il doit être mobile, rapide, pouvoir échapper à une police qui, elle, est mieux équipée, mais qui est un peu immobile. De ce fait, elle est dans une stratégie de bouclier qu'il y a déjà chez Zoulou et dans Chaka et tout ça, qui est éternel. Et le délinquant, lui, c'est celui qui peut se faufiler, se séparer, se regrouper. Alors, dont la délinquance du futur, on n'a rien inventé, on s'est retrouvé avec les mêmes délinquants. Pas plus, pas moins d'ailleurs, hein, parce que je trouve que quand on parle de délinquance de cité et tout, je ne vois pas beaucoup d'évolution. Simplement, les plus anciens ont encore des perfectos. Parce que c'est l'image de leur génération. Les autres, ils ont des trucs un peu plus confortables et un peu plus pratiques. Je ne dis pas que c'est des gilets pare-balles, hein, mais ils ont des vêtements qui les protègent mieux que le Perfecto, qui était très très joli, mais c'était très bien pour James Dean. Hein.
Sur cette image de Nick, tu peux peut-être nous commenter. Tu te places dans une perspective qui est à la fois celle de l'espace, du futur, et en même temps, le texte fait référence à une Bible. Est-ce que tu peux resituer cette image dans ton œuvre, hein, et nous dire pourquoi tu l'as choisie ?
Alors, c'est un... En gros, suite à l'ouverture d'un wormhole, cette petite navette se trouve éjectée de l'endroit où elle est dans l'espace-temps et rejetée à un autre endroit. Donc elle débarque avec cette lumière, parce qu'elle débarque avec la lumière de l'explosion en fait, dans laquelle elle a été. Donc c'est l'éclairage de l'explosion. C'est genre d'images pour moi qui sont inexplicables physiquement, évidemment, parce que rien ne ressemblera jamais à ça. Souvent, je représente mon wormhole à l'envers comme un aplat de d'encre noire, en fait. Rien dans l'univers ne ressemble à un aplat d'encre noire. Quand je dessine une planète, par exemple, c'est bête, mais si je fais un trait autour de la planète, le trait, il fait donc 40 000 km de haut en rapport d'épaisseur par rapport à la planète. Quand j'ai commencé à faire ma série où je dessine les planètes, je me suis dit, est-ce que je dois faire un trait autour ou pas ? Parce que si les gens acceptent, si je suis dans le réalisme et qu'ils acceptent les épaisseurs de traits, ils vont dire, tiens, il y a une atmosphère noire de 40 000 km autour. Voilà. Et donc, ce genre d'image, c'est vraiment, encore une fois, j'essaie de faire du merveilleux scientifique. C'est-à-dire que j'essaie de montrer cette histoire de rupture dans l'espace-temps, de déplacement instantané, de choses étranges. Je vends vraiment du rêve avec derrière un texte qui donne une sorte de consonance scientifique. Mais à aucun moment, j'essaie d'expliquer comment cet événement peut avoir lieu. Quoi. C'est de la même manière que dans la case en dessous, on voit la navette démultipliée. On n'est pas du tout dans une image... Ça imite les photos où on voit plusieurs étapes de marge de quelqu'un, mais c'est pas une image scientifique, c'est une image, c'est un rendu, j'espère, un peu magique quand je fais ça. Ouais.
Est-ce que dans Universal War, tu pourrais revenir également sur le monde tel que l'organisation politique du monde, la façon dont tu te sers du futur finalement pour faire un miroir de l'actualité, c'est ce que tu disais tout à l'heure. On évoquait à travers le thème de ce soir le futur comme un projet politique aussi. Est-ce qu'il y a une lecture politique qu'on peut faire de cet univers ?
Universal War One, c'est une histoire dont j'ai écrit la trame en 18 tomes en 98. Je suis toujours ce grand plan aujourd'hui, donc je n'ai pas dévié. En 98, mes lectures de l'époque me donnent l'impression qu'on se dirige vers un conflit entre la puissance privée et la puissance publique. Que, en gros, il y a des gens qui vont rêver de privatiser toute l'économie et l'intégralité des choses, mais en construisant un état policier pour que ce soit à leur service. Involontairement, à l'époque, je me projette déjà dans ce que peut être la Chine, par certains côtés, mais de ce que peut être aussi notre économie, où on voit monter un libéralisme économique très fort et en même temps des sociétés hyper sécuritaires voire à des moments policières. Donc c'est cette trouille-là qui me fait écrire. Mais pour moi, je le vois déjà dans Le Monde à l'époque. C'est-à-dire qu'en 1997, quand je réfléchis, on n'est pas très loin après la chute du mur, il n'y a pas une décennie de passé. On nous a promis un monde merveilleux avec la fin du bloc de l'Est, et en tout cas la fin du risque de guerre, et puis la fin du communisme, parce que les rouges, c'est mal. On sent bien qu'il y a derrière, il y a tout un discours à l'époque qui est vraiment très clair. On va dans l'épanouissement libéral, alors que moi, je vois monter déjà le délire sécuritaire. Quoi. Donc c'est ça que j'essaie de raconter. Mais on voit bien que c'est une traduction du présent. Je ne pensais pas une seconde en le faisant que j'étais sur la bonne route. On m'aurait dit ouais, il n'y aurait pas grande contradiction à ta théorie dans 20 ans, ça m'aurait empêché de le faire, ça m'aurait terrifié. Imaginez qu'on serait aussi loin dans le contrôle des populations, que ce soit par la technologie ou par une emprise mentale qui devient de plus en plus réelle, ça m'aurait dégoûté de le faire, parce que j'étais pas là, du tout là pour faire une prédiction du futur. J'étais là pour être au milieu de tous les autres gens qui écrivaient sur ces sujets, pour que ce futur n'arrive pas. Parce que le but, quand on écrit La planète des singes, c'est d'éviter qu'on laisse la place aux singes. C'est pas de dire, ouais, super, on a eu le futur, on a détruit la statue de la liberté. Enfin, y a personne. Donc, on est, quand on fait des dystopies, ces utopies négatives, on le fait toujours dans l'espoir qu'elles n'arrivent pas. Donc, à aucun moment, c'est une prédiction du futur, puisqu'on est en train de faire tout ce qu'on peut pour que ce futur n'arrive pas. C'est en ça que la dystopie est un genre qui n'est pas de l'anticipation, puisque, de fait, on fait ça pour que ça n'arrive pas.
Et puis, il y a une chose qui me fascine. L'autre jour, je tombais sur un livre en anglais, un nouveau, le Xème, sur Thérémine, l'orgue de Thérémine, etc. Et c'est un de ceux où il y a les textes de Thérémine qui, donc, est quelqu'un qui invente un orgue. On passe la main au-dessus et ça fait de la musique. On le touche pas, c'est un instrument virtuel. On va retrouver ça dans toute la musique ensuite et tout. Il part faire Disney en Amérique. Et puis on lui dit qu'il faut qu'il revienne, il revient, et il disparaît une quinzaine d'années. Et quand il sortira, alors on va dire qu'il est devenu fou, d'autres diront, ben non, c'est le grand complot. Il dira qu'il a passé 10 ans dans un laboratoire souterrain en Sibérie à essayer d'inventer des sons qui provoquaient la terreur chez l'ennemi pour Staline. Et puis comme ils n'ont pas trouvé, on a abandonné l'expérience. Alors ça, c'est la fameuse théorie des armes secrètes. Et ils en ont fait quand même, sur la parapsychologie, surtout. Tout le monde a essayé tout ce qui était possible. Mais moi, j'aime bien l'idée d'une musique qui pourrait fédérer la peur, la terreur, l'enthousiasme. Surtout que ça paraît, moi, ça paraît assez logique.
J'ai quelques artistes à nommer qui ont réussi depuis. Hein.
Oui, sur ce que disait Denis, pour rebondir sur ce que disait Denis, cette idée que tu ne cherches pas à prédire le futur, évidemment que tu veux peut-être avertir, contredire, effectivement. Et donc moi, par contre, dans mon usage de la science-fiction, ce que j'aime bien, c'est l'utiliser pour, on l'a dit tout à l'heure, pas pour la critiquer parce que ça ne serait pas bien, mais c'est pour essayer parfois de dire qu'est-ce qui nous manque pour faire la même chose. Qu'est-ce qui nous manque? Alors des fois, il nous manque des théories extraterrestres qu'on n'a pas. On ne sait pas aller plus vite que la vitesse de la lumière, c'est même un interdit dans nos théories physiques. Donc bon, ça, on ne sait pas le faire. Ok, on ne sait pas le faire. Donc on oublie cela. Par contre, il y a des choses qui sont pensables dans la physique ou dans les sciences actuelles, en ce sens qu'il n'y a pas besoin de physique nouvelle pour les comprendre. Simplement, si on ne réussit pas à les faire comme on les voit, peut-être parce que c'est un peu compliqué, ça pourrait être la terraformation, par exemple, transformer une planète comme Mars, par exemple, pour la rendre habitable pour des humains, et la rendre habitable en surface, tout naturellement, comme on est là. Donc ça, c'est pensable. Ça, mais ça va pas être facile à faire. Donc du coup, c'est une impossibilité qui n'est que pratique et pas théorique, si j'ose dire, pas fondamentale. Mais en faisant cette question, ce questionnement de qu'est-ce qui nous manque pour faire ça, souvent on arrive à la conclusion que ce qui nous manque, c'est l'énergie, beaucoup d'énergie, parce que l'énergie en physique, c'est quelque chose, c'est une entité qui quantifie la capacité d'un système, vous par exemple, ou une machine, à faire des transformations sur la matière. La matière est transformée en invoquant, si j'ose dire, enfin pas au sens du sorcier, mais enfin en utilisant de l'énergie, mais cette énergie, en fait, elle est matérialisée, elle agit sous forme de elle transforme avec les forces, ce qu'on appelle les forces ou les interactions. Et donc, en fait, les interactions transforment la matière et ça met en jeu des quantités d'énergie qui peuvent être à fournir pour faire la transformation ou à récupérer parfois si la transformation est dans le bon sens. Si on fait chauffer, si on fait brûler du pétrole, ça vous chauffe typiquement, ou ça peut faire d'autres choses, mais ça vous chauffe, et là vous récupérez de l'énergie. Mais des fois, si vous voulez construire cette table, il va falloir dépenser de l'énergie. Et donc on arrive à cette idée-là, que l'essentiel de ce qui nous manque, c'est de l'énergie, et beaucoup d'énergie. Et après, l'intérêt, alors voilà, je reviens sur l'idée de Denis, c'est qu'ensuite on se dit, oui, mais alors du coup, on n'en a pas assez, d'accord, mais bientôt on en aura assez, enfin... Et là, on retombe sur une problématique actuelle qui est 80% de nos sociétés tournent à l'énergie fossile, sont des énergies de stock, donc qui ont vocation à s'épuiser. On a une échelle de temps qu'on peut estimer à quelque chose comme 50 ans pour le pétrole, peut-être autant pour le gaz, un peu plus pour le charbon. Ce sont des énergies qui ont des conséquences que vous connaissez sur le dérèglement climatique, sur l'atmosphère, sur le climat en général, et qui le dérègle fondamentalement. Et donc, réaliser que finalement, tout ce que l'on voit et quand on essaie de les chiffrer, quand c'est pensable, quand ça rentre dans un cadre où la physique peut dire des choses, alors des fois c'est l'énergie, ça peut être autre chose, mais finalement on pourra peut-être jamais le faire quand même, pas tant parce que c'est gigantesque mais parce que simplement on est dans une... là c'est une remarque de maintenant, on aurait les mêmes remarques, le même raisonnement dans les années 50, on aurait dit mais bien sûr, enfin, de toute façon c'est ce qu'on a vu, mais bien sûr 69 on est sur la Lune, 80 on a envoyé des fusées sur Mars avec des robots et 90 c'est des hommes qui sont sur Mars, hein. Donc c'était tout à fait clair, la roadmap elle était claire, et puis ça s'est pas passé comme ça pour plein de raisons qui sont pas que politiques, qui sont aussi simplement ça coûte une blinde en dollars, mais en fait, le dollar n'est que la transcription, ou l'euro n'est que la transcription de la matière et de l'énergie que vous avez mis en œuvre pour faire des transformations, envoyer un humain sur Mars ou sur la Lune. Et comme ça coûte une trop grosse blinde pour un rendement qui est assez faible finalement, enfin un intérêt en dehors du fait que vous avez montré que vous aviez la plus grosse par rapport aux soviétiques, voilà, c'est tout. Qui d'ailleurs ne cherchait à rien montrer du tout. Enfin bref, du coup, vous arrêtez tout, quoi, ça vaut pas le coup. Donc c'est ça, c'est réaliser que finalement, en faisant ce détour par l'imaginaire, c'est pour parler de notre réel. Et comme la science-fiction, elle parle jamais que d'aujourd'hui, d'ici et maintenant, par des prétextes variés, des détours variés, en parlant d'ailleurs et demain, pour reprendre le nom d'une célèbre collection. On peut faire ça aussi, du point de vue de la science cette fois-ci. Prendre prétexte de la science-fiction pour faire un détour, pour parler de notre monde différemment, le comprendre sous un autre angle, et des fois un angle qui est, dans ce cas énergétique, qui nous révèle qu'on a des rêves fous, qu'on peut les garder, que c'est des rêves d'ingénieurs qui ne sont pas là pour être réalisés, qui sont là pour nous faire penser sur notre monde. Et c'est ça qui est... peut-être dans Jacobs aussi, il y a des choses qui sont une manière de rêve, mais qui peuvent être aussi lues comme une lecture du monde dans lequel il était, mais enfin, on l'a déjà dit, et vous le savez bien mieux que moi, comme une lecture du monde dans lequel il était, et finalement une révélation du monde. On pourrait faire une manière d'archéologie du futur, où donnez-moi la science-fiction des années en N à N plus 20, et je vous dirai le monde qui les a produites. Vous voyez, une sorte de rétro-engineering de la science-fiction. Je ne sais pas tellement si on pourrait faire ça avec une grande précision, hein, comme tout travail historique, tout travail inverse, on a toujours une perte en ligne, mais on pourrait imaginer ça. Et donc ça, j'aime bien utiliser la science-fiction pour mieux, différemment parler de notre monde et réaliser à quel point il y a des soucis qui se posent de plein de façons dans cette question énergétique qui sera une transition qui va être difficile et qui sera, on pourra en discuter longuement, une transition d'abord sociale plutôt plus que technique ou ingénierie ou énergie.
Vous venez d'évoquer 1969 et l'arrivée de l'homme sur la Lune. Ben, Jean-Pierre, dans ses mémoires, en parle en disant que c'est une catastrophe pour toute une génération parce que c'est comme si le rêve de tous ceux qui avaient pensé faire de la science-fiction en se disant que jamais on mettrait un pied sur la Lune, ben, ce rêve s'éteint d'un coup.
Oui, c'est-à-dire que...
C'est-à-dire que la science-fiction est le produit de son époque.
Je crois que... le monde entier de ceux qui avaient des postes de télé, noir et blanc à l'époque, on a vécu un moment de communion sidérant. C'est-à-dire qu'on s'est réveillé à l'heure qu'il fallait, puisque c'était simultané, et on a marché sur la Lune. C'était nous. C'était pas le type qu'on voyait dans la télé. C'était nous. On a marché sur la Lune. Et puis après, pouf. Voilà, ça y est, on a marché sur la Lune, et puis on revient. Et effectivement, à ce moment-là, on est encore en train d'imaginer, ça serait possible aujourd'hui, qu'il y aura, en l'an 2000, d'immenses dirigeables, puisque maintenant on peut faire des dirigeables qui ne s'enflamment pas. Ben non, on ne l'a pas fait. Alors après, il y a ce que j'appellerais, dans le discours ambiant, quand on parle d'après-demain, presque toujours on dit, il faut déjà régler le problème de demain matin. On a un problème vraiment urgent là demain matin, pas après-demain. Après-demain, on verra après. Et je pense qu'il y a un discours ambiant qui nous fait parler comme si on parlait de yaourts qui vont être périmés. il n'y a plus d'envolée. Quel est le moment où des scientifiques et des écrivains de science-fiction se réunissent pour essayer d'avoir des projets ensemble à la fin de la guerre en Amérique? C'est pendant la guerre d'abord, il y a une raison, et Heinlein s'entend très bien avec Einstein et tout, et ils jettent en l'air des théories qui n'aboutiront peut-être à rien, qui d'ailleurs n'ont abouti à rien, mais c'était intéressant. Et puis là-dedans, il y avait des gens qui étaient au milieu. Il y avait Arthur Clarke qui était au milieu. Arthur Clarke, quand je relis l'an 2000 aujourd'hui, je vois qu'il y a des prédictions. Alors, il est le premier à dire qu'il faut être entre 75 millions de kilomètres de la Terre pour qu'un satellite reste en orbite. C'est le bouquin l'an 2000 qui paraît en 58. Et il dit aussi à la fin d'un chapitre, il dit « L'espèce humaine, telle qu'elle est un peu en bout de course, telle qu'elle se présente actuellement, parce que vu la concentration de plus en plus grande dans des mégapoles des gens, on va assister à un phénomène qu'on a constaté chez d'autres animaux, ça va être, les gens vont grandir. Il y aura un phénomène, il appelle ça la girafisation. Ben, ça s'est passé. Hein. Moi, quand je regarde mon fils, je le regarde comme ça. Donc, ce qui est marrant, c'est de voir que lui, il dit ça comme ça, semble être une boutade. Et puis non, on a bien girafisé. Alors, lui, il est très pessimiste. Hein. Il dit, si l'espèce est amenée à évoluer comme ça pour dépasser du troupeau, généralement, c'est une espèce en voie de disparition. Bad news pour nous. Mais moi, je fais partie des mauvais esprits qui me disent, plus ça sera pire, plus peut-être, à un moment précis, on reprendra au sérieux les séries, l'idée de terraformer une planète, d'y aller. Alors, effectivement, c'est pas très confortable par rapport à la génération qui arrive, de se dire, eux, ils vont se trouver dans le pire. Mais est-ce, comme c'est souvent en période de guerre qu'on a fait les inventions, en période de grand cataclysme, où on a été obligé, dos au mur, d'agir, je souhaite pas cette fin du monde-là, mais je me dis peut-être bien que c'est ça qui va nous obliger. Alors, Monsieur Le Houk me dira peut-être, c'est très gentil, mais on va mettre 2000 ans. Moi, je me dis, oui, mais est-ce possible? Et est-ce que ça peut ne pas prendre 2000 ans?
Justement, pour prolonger ce que vous dites, je pensais effectivement à cette image que vous avez choisie, Roland, d'un cylindre de O'Neill, qui est un vaisseau, un principe qu'on retrouve d'ailleurs très proche aussi, il me semble, dans Universal War. Il y a des liens, mais beaucoup d'autres récits, Centaurus par exemple en bande dessinée, qui explorent ce principe. Et du coup, une question pour prolonger, est-ce que le futur va forcément passer par l'évacuation de la Terre? Est-ce que c'est forcément vers l'espace que le futur se joue? Est-ce que ça veut dire que notre planète est définitivement perdue, que tout espoir se reporte toujours, un peu comme le fait Jacobs avec les Atlantes, dans l'espace? Est-ce que espace et futur sont obligatoirement liés, ou est-ce qu'on va pouvoir continuer à se projeter sur Terre?
Dans cette veine de rêve d'ingénieur, hein, ça c'est les années 73, Gérard O'Neill, un ingénieur américain, qui propose, il n'y a pas que lui, il y a d'autres structures de stations, c'est des stations orbitales, hein. Ce ne sont pas des vaisseaux, ce sont des stations orbitales. Alors les plus petites peuvent accueillir 10 000 personnes pour commencer, mais les grands modèles peuvent accueillir jusqu'à 1 million de personnes. Ça fait 30 km de long, 5 ou 6 km de diamètre, enfin c'est des énormes structures, ça va par paire ou par triplé, enfin c'est vraiment des sacrées structures. Et donc, encore une fois, des structures qui sont pensables, il n'y a pas d'impossibilité technique, c'est juste très gros, donc ça veut dire compliqué, lourd, long à faire éventuellement, mais c'est des structures qu'on saurait faire, enfin il n'y a pas d'impossibilité technique, il faut y penser, faut penser soigneusement, mais c'est jouable. Là, c'est vraiment le rêve d'ingénieur, et dans son article, c'est quoi, c'est dans Science, il a publié son article, je crois, O'Neill, son premier article. Dans son article, dans le grand titre, dans le chapeau de l'article, il y a écrit peut-être que d'ici une dizaine d'années, quelques dizaines d'années, on pourrait construire des stations orbitales et qui pourraient résoudre les problèmes de la Terre. Et en fait, on est en 73, et donc il y a le rapport du Club de Rome la même année qui nous explique quand même que les modélisations, même frustes, semblait-il, de l'époque, elles ont été refaites maintenant et elles ont tout bon. Enfin, ça se passe très très bien, ces modèles, ce modèle D-World 3, qui avait l'air assez simple, hein, parce que les moyens techniques, les moyens essentiellement de calcul de l'époque n'étaient pas hyper développés, enfin pas autant qu'on peut l'avoir maintenant. Donc ils avaient fait un modèle volontairement simple pour que ça passe sur les machines électroniques de l'époque. Eh bien, ce modèle World 3 nous dit qu'il y a beaucoup de... La plupart des situations aboutissent, vu le consumérisme, vu le productivisme, vu l'extractivisme, vu le capitalisme, vu le merdier ambiant sur Terre, le problème est réglé à l'échelle de pas très longtemps, qui est inférieure à un siècle. Il y aura un effondrement, dont on entend parler beaucoup en ce moment aussi, il y aura un effondrement d'une façon ou d'une autre, en tout cas des civilisations occidentales. Et lié essentiellement à la fin des matériaux nécessaires pour les faire tourner et à l'énergie nécessaire pour transformer les matériaux. Et l'énergie pour extraire les matériaux et l'énergie pour avoir de l'énergie. Enfin, tout ça, évidemment, se boucle. Plus les pollutions qui vont avec, puisqu'on sait depuis ces années-là, même depuis bien avant, qu'il y a des conséquences climatiques à l'extractivisme mondial, mais enfin essentiellement occidental. Et donc, la solution, la voilà pour O'Neill. Il dit, y a pas de problème, de toute façon, si c'est un peu la merde sur Terre, boum, on en met par paquet d'un million en orbite, on a les moyens de faire ça, on sait le penser, on en envoie plein et puis roule mi-mille. Donc c'est l'idée, on est encore dans une idée, on va pouvoir aller dans l'espace, en tout cas une fraction appréciable de l'humanité va aller dans l'espace, on parle en millions, on est plusieurs milliards, enfin à l'époque on n'était pas plusieurs milliards, on était 4 milliards, en 73, quelque chose comme ça, 4 milliards. Donc là on parle des fractions qui sont un 400e de la population. Ça commence à être pas négligeable. Maintenant, je rappelle que la population humaine en orbite, enfin, qui est dans l'espace en permanence, est 6 humains. Donc, vous voyez que... Bon. Après, il y a des gens qui montent dans des fusées à 100 km qui redescendent. Enfin, ils vendent ça à 100 000 dollars. Monsieur, pas Musk, mais ses copains, Bezos et compagnie. Donc, voilà une solution au problème. Donc là, il y a quand même l'idée d'un solutionnisme technique. Maintenant, on dirait ça, un solutionnisme technique, dont on s'est rendu compte que ce genre d'engins, même si on peut les penser, c'est pas pour ça qu'ils sont faciles à faire, ni même qu'ils sont souhaitables à faire. La science-fiction s'empare de l'idée, parce qu'il y a plein de choses qui vont avec. Si on prend un film comme Elysium, par exemple, alors c'est pas des cylindres de O'Neill dans Elysium, c'est des torts de Stanford, enfin une autre équipe à Stanford qui avait... Bon, c'est le même principe, c'est une énorme colonie orbitale, et dans le torque est dans Elysium, évidemment, c'est pas vous et moi, enfin, probablement pas vous, et sûrement pas moi, qui avons les moyens d'aller dans ce genre de truc, quoi, évidemment. Donc, ça sera Jeff Bezos et ses 50 potes qui pourront éventuellement faire des choses là-bas. Donc, et dans Elysium, il y a très clairement, la Terre est un dépotoir, on extrait encore les dernières ressources disponibles pour ceux qui sont dans l'Elysium en orbite autour de la Terre. Donc, là, il y a effectivement l'idée qui est, à mon avis, un rêve qui est plaisant quand on le prend du bon côté, en se disant bah, c'est incroyable, ces engins, on peut les penser. C'est quand on est, enfin même moi encore, hein, quand je me contrôle pas trop, ou quand on est un jeune ingénieur ou même un vieil ingénieur, enfin quelqu'un qui a envie de jouer avec les nombres, qui aime bien la techno, quoi. Voilà, quand on aime bien la techno, c'est des trucs déments, de sujets d'étude, quoi, pour jouer avec le concept. Donc c'est extrêmement excitant intellectuellement, visuellement. Bah, vous regardez le résultat, ça dépote pas mal. Hein, c'est les space art de l'époque, là, c'est Giacchi et tous ces mecs. Ils font des images démentes. Et en même temps, quand on voit ça, on se dit, voilà, ça c'est l'aspect, tu vois, en vieillissant, il y a eu un chiffre du cerveau que j'avais 15 ans, c'était 195% sur ça et 5% dans draguer, et maintenant c'est 5% ou 2% sur ça et 95%, il ne faut pas nous vendre du bullshit, ce truc-là c'est super fun, mais ce n'est pas comme ça qu'on va se sortir des ennuis dans lesquels on est, si on arrive à s'en sortir, ça ne sera pas du tout ça la solution. Donc il y a aussi l'idée que toutes ces belles images, l'ascenseur spatial et tout ça, c'est des images absolument incroyables, enfin avec l'ascenseur spatial, c'est pareil, on peut pas, j'ai une pile de docs comme ça sur cet engin technique où il y a...
C'est quelle idée ? C'est quoi ?
Alors, l'ascenseur spatial, oui, c'est l'idée de, en gros, tirer vraiment un câble depuis l'orbite. On tire un câble, on le laisse descendre, on le laisse pendouiller, on l'accroche sur Terre, et ensuite, il n'y a plus qu'à monter le long du câble. Je ne dis pas comment on fait, enfin, il y a plein de choses à dire. Ça a donné lieu à deux textes, deux romans, un d'Arthur Clarke, dont on parle, alors Arthur Clarke, du point de vue de la SF et de la science à la fois, c'est un grand maître quand même, qui s'appelle Les Fontaines du Paradis. Et puis, il y a aussi un autre auteur anglais, alors c'est quoi, qui a écrit La Toile entre les mondes, c'est Sheffield, peut-être Charles Sheffield, qui a écrit La Toile entre les mondes.
Donc un autre roman, la même année, où, et d'ailleurs Clark a dit non, il n'a pas du tout pompé sur moi l'idée ni rien, c'était parfaitement indépendant. Et donc c'est à un moment donné, on a commencé à, il y a un ingénieur américain qui a commencé à retravailler l'idée qui venait de soviétique, d'un soviétique qui s'appelait Yuri Atsunatov. Bon bref, et donc ce truc-là, on se dit ben, c'est génial, parce qu'avec ça, si on a ça, alors du coup c'est fini de payer 20 000 dollars par kilo à mi-mai en orbite, là le prix du kilo en orbite c'est de l'ordre du kilowattheure que vous payez électriquement, donc c'est 10 centimes quoi, mettons 1 euro parce qu'on va faire des bénéfices, il y a des frottements et tout ça, c'est-à-dire vous qui pesez 80 kilos, 70 kilos, 50 kilos, bref, vous payez moins de 100 euros pour aller en orbite quoi. Là, le tarif actuel, c'est 20 millions de dollars, hein, je rappelle. Donc, vous voyez, petit changement d'échelle, quoi. Et là, ce n'est pas des tonnes de temps en temps, enfin, par paquet de 10 tonnes de temps en temps, tous les mois, disons, qu'on met en orbite. Là, c'est des tonnes qui partent toutes les heures. Hein. Donc là, on joue à un autre niveau. Si on a ça, c'est parti. On est dans l'espace vraiment à une autre échelle. Il suffit d'avoir 2-3 centrales nucléaires qui alimentent le truc, le bousin, et c'est parti. Et si ce n'est pas les centrales nucléaires, parce qu'on ne veut pas mettre de CO2 et puis qu'on n'aime pas le nucléaire, alors on met plein de panneaux solaires, on essaie de se débrouiller avec ça, parce que quand on est dans l'espace, il fait toujours jour. Enfin, on peut toujours être à partir d'une certaine altitude, on voit toujours le soleil. Le soleil ne se couche plus. Donc on fout une chier de panneaux solaires et puis comme ça, c'est super beau. Donc ces objets-là, ils sont magnifiques, ils sont pensables, c'est ça qui les rend aussi crédibles, mais ils peuvent avoir, et c'est là où il faut un peu se méfier d'une certaine façon, ça peut être une manière d'offuscation, de obfuscation en anglais, mais offuscation en anglais, de masquage du réel, quoi. C'est-à-dire, dormez bien, braves gens, Elon Musk et ses copains ingénieurs qui ont à la fois une vision technique incroyable et une vision visuelle, enfin une vision picturale, ils font des dessins, ils font des images, parce qu'ils sont... Elon Musk, je suis absolument persuadé qu'il connaît parfaitement la science-fiction, enfin je veux dire parfaitement, mais l'iconographie de la science-fiction. Quand il met sa bagnole en orbite avec son type, il met des détails, il met le bouquin.
C'est la séquence d'ouverture du film Heavy Metal.
Et quand j'ai dit ça à des gamins qui avaient 20 ans, ils m'ont dit Ah bon, oui, regarde.
Exactement, il a pris plan par plan. Et moi, sauf qu'il m'annonçait des stations spatiales, il m'annonçait des trucs de tout. Donc, et tout ça pour me vendre une bagnole qui n'est pas encore livrée. Alors, je commence à être méfiant. Au départ, il m'a dit, tout ça, on va pouvoir vous le livrer. On va commencer par acheter la voiture, quand même, électrique. Et je me dis, tiens, c'est marrant de voir qu'une imagerie de science-fiction décalquée, en changeant la voiture, qui n'est plus une Corvette, mais une Tesla. Ouais.
Mais là, sauf que là, c'est vrai. Alors, ceux qui ont vu l'image et qui voient ça pour la lecture, elle est évidente. Les jeunes gens qui voient que l'image, ça fait le même effet que quand moi j'ai vu petit Métal Hurlant. Bon, c'est taillé pour les jeunes, pour les ados, Métal Hurlant. Mais putain, quelle patate ce film. Et quand on voit la bagnole qui descend d'orbite, qui sort d'un navet, qui sort d'orbite, on dit waouh. Et là, on le voit en vrai. Donc il y a 5 minutes, 5% de mon cerveau qui s'est dit oh, c'est pas possible quoi. Maintenant, on sait faire ça. Enfin, on sait faire cette image en vrai. Avec une caméra.
C'est pour ça quand.
Mais après ça, je finis, excuse-moi Jean-Pierre, après ça, c'est de se dire, ouais, non, mais là, il est en train de nous enfumer, quoi. Il est en train de nous faire croire qu'il va arriver à faire tous ces trucs, et en fait, non. Enfin, nous faire croire volontairement ou pas, je ne sais pas s'il s'abuse ou pas. Au final, le résultat, ça pourrait être, on est en train de se faire enfumer sur une situation comme Hyperloop, c'est comme plein de trucs, on est en train de se faire enfumer, et tous ces rêves d'ingénieurs qui sont d'autant plus fantastiques qu'en plus ils ont l'air plausibles, c'est-à-dire ils ont l'air techniquement jouables, eh bien ils peuvent nous détourner de la voie à suivre pour gérer correctement les années qui vont venir, les 10 ou 20 ou 30 ans qui vont venir. Donc c'est là, mon inquiétude, c'est ma partie dystopique si tu veux, c'est la science-fiction, pas la science-fiction, mais l'usage de la science-fiction, de ses images, de son iconographie par ceux qui la maîtrisent. On appellerait ça de la com, hein, pour être désagréable, parce que c'est un peu plus de la com, mais ils utilisent tout cet imaginaire-là, très puissant, parce qu'il est construit pour être puissant, ils l'utilisent peut-être pour des volontairement ou pas, en tout cas le résultat peut être contre-productif. Voilà. Donc il faut toujours être un peu... j'irais méfiant, et c'est pas encore une fois pour critiquer la science-fiction, c'est un usage qui est fait de cet imaginaire, de ces images.
On peut être méfiant, tu parlais de Bezos et des eaux tout à l'heure, on peut être aussi positif en disant le grand changement ne viendra pas des politiques, parce que les politiques sont déjà dans la réélection, leur prochaine réélection, donc les problèmes dedans, mal 10 ans, lui il ne reste plus que 2 ans, lui il ne reste plus que 3 ans. Par contre, c'est vrai que tous ces ce fameux 1,1% et tout, qui sont des jeunes types qui ont fait des fortunes, tout ça, etc. Moi, j'ai assisté un jour à une conversation assez ahurissante entre Peter Gabriel, qui avait de l'argent, Philippe Stark, qui avait de l'argent, y avait déjà Steve Jobs. Et eux, c'était à ce moment-là, ils s'étaient fixés sur justement le retour du dirigeable. OK, en disant c'est jouable. Puis après, ils ont changé d'avis, ils ne l'ont pas fait. Bon, mais ces fameux 1% de 1% qui sont des décisionnaires, qui ont l'argent, ils peuvent très très bien demain ne pas être forcément. Ils peuvent y voir leur intérêt à court et à moyen terme, par exemple sur l'exploration spatiale. C'est vrai que chaque fois que je vois un multimilliardaire parler de Saturne et tout ça, et autres, ils parlent toujours des terres rares. Ils disent, ouais, mais sur telle planète, on risque de trouver telle terre rare, et qu'on ne trouve plus sur Terre. Bah, si leur raison, elle est purement économique, mais que moi, ça m'arrange qu'on aille sur... alors, quelle planète, je n'en sais rien, pas sur les anneaux gazeux, je ne pense pas. C'est pour ça que j'ai un espoir là-dedans. Il y a eu ça dans la science-fiction, j'allais dire, de la période Zelazny, Delany, tout ça, etc. C'est-à-dire qu'on voyait des types qui avaient des buts, même chez Heinlein, des types qui avaient des buts purement capitalistes et qui étaient amenés à provoquer une immigrance, une transformation tout de l'être humain modifié pour aller dans l'espace et tout, pour des raisons purement financières. Et ils se trouvaient après quelque chose qui leur échappait. Parce qu'une fois qu'on est dans l'espace, je ne dirais pas comme dans Alien, dans l'espace on ne vote pas, mais le problème devient différent. Je pense qu'on n'est plus du tout dans un problème terre-à-terre où on se laisse très facilement, heureusement qu'il y a Jacobs et d'autres pour nous sortir de là, qu'il y a Denis, qu'il y en a d'autres. C'est vrai que si on se contente de suivre au jour le jour l'information, on a vraiment une information de la veille. Même pas du lendemain matin. Moi, j'avais été fasciné par le fait qu'il y a longtemps, les politiques lisaient. Et entre autres, j'avais découvert que Robert Rue, entre autres, etc., lisait beaucoup de polar. Parce que lui, il trouvait que c'est un parfait reflet de la société. Il connaissait très, très bien le polar. Par contre, j'ai jamais rencontré de politique qui lise de la science-fiction.
Bien sûr, ça, c'est un vrai problème. Enfin, ça, je suis d'accord, c'est un vrai problème. Moi, je pense qu'il faut utiliser la science-fiction pour ce qu'elle... Pour certaines de ses vertus, et de, notamment d'être capable de se projeter. C'est-à-dire, l'idée qu'on puisse comme ça lancer des jeunes esprits vers les sciences, vers le questionnement sur la gestion du monde, disons, par des grands projets incroyables, ça c'est tout à fait propre, encore une fois, à ces projets incroyables de Musk et compagnie et d'autres, et propre à la science-fiction et à ses rêves d'ingénieurs. Mais le monde est quand même différent. C'est-à-dire qu'il était quand même infini encore dans les années 50, et maintenant on a vraiment compris que ce n'est plus un monde infini et qu'il faut, voilà, il faut réfléchir un tout petit peu. Et que ce qui pouvait être un motivateur intellectuel, allez, on va faire des grandes stations orbitales, et un motivateur économique, ouais, on va faire plein de trucs, ça va être génial. Maintenant, on en voit les limites. C'est-à-dire, le motivateur intellectuel, il est toujours là. Ouais, c'est super. Moi, j'ai toujours grand plaisir à jouer avec des objets, les big dumb objects, comme on appelle ça, en science-fiction, les gros machins énormes techniques, mais on a vu ce qu'a fait ce monde, enfin le monde communiste, on parlait tout à l'heure, s'est écroulé. Bon, attendons, le monde capitaliste, il est pour l'instant la corde au cou. Mais le problème du monde capitaliste, c'est qu'il y a deux catégories, il y a les PNQ comme vous et moi, et il y a les mecs qui sont les boss, et eux ils vont survivre. Donc eux ils s'en foutent en fait que ça s'écroule, c'est même un bien en fait, c'est tous les PNQ, ils seront plus là à les emmerder, et donc il n'y a pas de raison de faire quoi que ce soit pour eux. C'est déjà, eux, ils sont déjà dans un monde incroyable de science-fiction. Enfin, qui pour nous, comme disait Gibson, le futur est déjà là, mais il est très mal réparti, quoi. Donc, vous en avez pas beaucoup. Voilà, moi non plus. Enfin.
Voilà, je crois que ce sera le mot de la fin, finalement. Merci à toutes et à tous. Merci à nos trois orateurs. Bonne soirée.